Là, nous allons demander au Seigneur
d'éclairer la parole qu'il veut nous dire. Il ne s'adresse pas à nous globalement, il s'adresse à nous individuellement. Et le Saint-Esprit veut vraiment que ce soit comme ça, que nous vivions ce temps. Alors oui, merci Seigneur de nous placer maintenant devant toi. Merci Seigneur de nous placer aussi devant l'Écriture que nous allons lire. Nous savons Seigneur que nous pouvons être distraits. Nous savons Seigneur que nos oreilles peuvent entendre, mais qu'il n'y ait pas de répercussion dans notre vie, dans notre cœur profond. Alors nous te demandons Seigneur que non seulement nous entendions les sons, mais que ces sons se transforment en vie, en ta vie Seigneur. Parce que la parole, c'est la vérité. Et ce que tu veux nous dire ce matin, Seigneur, c'est pour nous faire grandir dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance du Père et dans la connaissance de l'Esprit Saint. Conduis-nous, Seigneur, à une écoute conforme à ta volonté. Amen. Je voudrais d'abord vous lire donc dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, les 11 premiers versets. Romains 6, 1 à 11. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Si vous êtes là ce matin, frères et sœurs, c'est que vous avez la foi en Christ et que vous avez la certitude que le sacrifice de Jésus, que son sang qui a coulé, a effacé le péché qui vous séparait de Dieu et donc que vous êtes sauvés. C'est l'ABC de la foi chrétienne. Pour avoir été pasteur pendant pas mal d'années, je sais que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore cette certitude. Si c'est votre cas, je vous invite à considérer chaque mot de Romains 3, 23, 25 qui parle de ce fondement de la foi chrétienne. Écoutons ce qu'il dit. Il n'y a pas d'exception. Le texte dit de distinction, c'est plus difficile à comprendre. Il n'y a pas d'exception. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tout de suite après, il y a juste un point virgule. Paul dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice. Il est important que ceci soit bien clair dans notre pensée. Nous ne sommes pas pardonnés parce que nous allons au culte ou à la messe, même tous les dimanches, ou parce que nous faisons de bonnes œuvres, ou parce que nous lisons la Bible et prions fidèlement peut-être une heure par jour, parce que nous donnons la dîme à l'Église, ou de l'argent aux pauvres, ou que sais-je encore. Non! Nous sommes pardonnés gratuitement par ce que Jésus a expié à notre place, les conséquences de notre péché. Nous n'avons rien eu à faire pour obtenir le pardon. C'est Jésus qui a tout fait pour que nous soyons sauvés, sans rien nous demander en échange. Si. Sauf une chose, laquelle croire que ce que Paul écrit dans les deux versets que je vous ai lus est la vérité. Avoir la foi dans cette parole, c'est s'approprier ce qu'elle dit, c'est s'approprier ce qu'elle promet, et c'est être capable de dire au Seigneur, « Seigneur, je te remercie de tout mon cœur de ce que le sang de ton Fils Jésus a effacé mon péché et que je suis sauvé. » Si vous avez des difficultés à vous approprier cette promesse, demandez à Dieu qu'il vous la révèle comme étant la vérité. En effet, la foi, c'est la foi en ce qu'opère le sang de Jésus qui va donner à chaque croyant l'assurance d'être sauvé. Sans la foi, le doute subsistera toujours, empoisonnera notre vie et nous laissera dans l'inquiétude. C'est exactement le contraire de ce que Dieu veut en nous donnant cette promesse. Si vous n'avez pas encore l'assurance de votre salut, faites un acte de foi qui consiste à vous approprier la promesse de Romains 3, 23 et faites-en votre prière personnelle en disant du fond de votre cœur, reprenez-la, cette parole de 3, 23, chez vous et dites au Seigneur, « Seigneur, je crois. Je crois que je suis justifié par ta grâce. » Par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Car c'est toi, Seigneur, qui as destiné Jésus comme moyen d'expiation pour ceux qui ont la foi en son sang. Vous ne faites que répéter du fond de votre cœur la parole qui est écrite. Ce n'est pas des paroles d'homme. C'est des paroles que le Saint-Esprit a dictées à Paul C'est donc la vérité. Faites cette prière sincère et répétez-la si c'est nécessaire. Et soyez assurés, frères et sœurs, que Dieu vous accordera cette révélation. C'est ce qu'il a de plus cher à vous révéler. Je viens de parler du problème de notre salut. Je vais aborder maintenant le problème de notre nature. Comme moi, vous avez sans doute fait l'expérience que même si vous avez l'assurance de votre salut, il subsiste en vous des luttes intérieures, des combats entre le bien et le mal, des tentations dont nous savons pertinemment que ce sont des tentations, mais auxquelles nous succombons. Alors nous ne comprenons pas pourquoi il en est ainsi, puisque nous savons que le sang de Jésus a effacé notre péché. Nous demandons pardon à Dieu et le supplions sincèrement de nous aider à ne plus retomber dans nos ornières. Et pourtant, nous y retombons. Si nous aimons le Seigneur, ces combats perdus nous dépriment, nous culpabilisent. Nous avons honte de demander au Seigneur de nous pardonner des fautes qui reviennent aussi souvent. L'ennemi de notre âme ne manque jamais une occasion de nous faire remarquer que nous retombons dans les mêmes travers, malgré notre désir sincère de ne pas succomber aux tentations qui se présentent à nous. Et nous nous demandons ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette situation, pour sortir de cet esclavage du péché. Frères et sœurs, soyez assurés que ce n'est pas le plan de Dieu que ses enfants succombent aux tentations. Il y a effectivement une chose à comprendre et à faire, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Il y a d'abord une chose essentielle à comprendre, mais aussi à admettre. C'est ce qu'écrit Paul en Romains 5,19. Voilà ce qu'il dit. Par la désobéissance d'un seul, c'est-à-dire Adam, du jardin d'Éden, tous les hommes ont été rendus pécheurs. Je répète, par la désobéissance d'un seul, Adam, tous les hommes, sans exception, ont été rendus pécheurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, nous ne sommes pas devenus pécheurs à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Adam a fait. Je suis pécheur parce que, comme tous les hommes, je suis né en Adam. Le péché qui est en moi n'est donc pas une question de conduite, j'allais dire de mauvaise conduite. C'est une question d'hérédité. Je ne suis pas un pécheur parce que je pêche. Je pêche parce que je descends d'une mauvaise souche. C'est ma nature profonde qui est pécheresse. Et je pêche parce que, aussi longtemps que je reste en Adam, je ne peux rien être d'autre qu'un pécheur. Il existe des pécheurs qui ont un sens moral, et il y a des pécheurs qui sont corrompus. Mais tous sont également pécheurs, car ils ont tous hérité de la nature d'Adam. Au début de la vie chrétienne, nous sommes plus préoccupés par nos actes que par notre nature. Ce qui nous attriste, ce sont nos fautes. Nous nous imaginons que si seulement nous pouvions réparer certaines fautes, nous serions de bons chrétiens. Et nous nous efforçons de changer notre manière d'agir. Mais nous voyons bien que nous n'y arrivons pas. Nous essayons d'être humbles. Mais il y a quelque chose dans notre nature même qui refuse d'être humble. Nous essayons d'aimer, mais nous sentons si peu d'amour en nous. Plus nous essayons de corriger notre attitude extérieure, plus nous réalisons combien sont profondes en nous les racines du mal. Est-ce qu'il faut être surpris de ça? Mais pas du tout. C'est exactement le diagnostic que Paul fait en Romains 5, 19. Je cite, « Par la désobéissance d'un seul, Adam, tous les hommes ont été rendus pécheurs. » C'est pas de nous étonner ou de nous lamenter que nous sommes de nature pécheresse qui compte. La seule question que nous devons nous poser, c'est celle-ci. Comment allons-nous pouvoir sortir de cette hérédité pécheresse? Eh bien, Paul nous donne un début de réponse dans le verset qui précède, c'est-à-dire le verset 18. Voilà ce qu'il écrit. Comme par une seule faute, c'est-à-dire celle d'Adam, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça, c'est le début de la réponse. Et voilà ce qui complète la réponse. Ça se trouve en Romains 3, 3. C'est une question. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Concrètement, cela signifie que puisque nous sommes entrés dans la lignée d'Adam par la naissance, nous ne pouvons en sortir que par la mort. Pour mettre fin à notre nature de péché, il faut mettre fin à cette vie reçue d'Adam. L'esclavage du péché est venu par la naissance, notre naissance. La délivrance du péché vient par la mort. Mais pas n'importe quelle mort. La mort de Christ sur la croix. Mais ça ne suffit pas de dire ça, la mort de Christ sur la croix. Ce qu'il faut ajouter tout de suite, la mort de Christ sur la croix à laquelle Dieu nous associe étroitement lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comprenons bien. Que la croix n'est pas seulement celle du Christ personnellement. Je répète, la croix n'est pas seulement celle du Christ personnellement. Elle n'est pas une croix individuelle. C'est une croix qui nous englobe tous, vous et moi. Dieu nous a mis Dieu nous a mis en son Fils et nous a crucifiés en lui. Dans le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, il a effacé tout ce qui était du premier Adam, celui de la Genèse. Si nous relativisons cette vérité, si nous n'y voyons qu'une métaphore, une simple image, si nous refusons de voir notre propre mort dans la mort de Christ, nous resterons en Adam et ne vivrons pas pleinement en Christ. Quelles sont les conséquences de cela? Eh bien, nous continuerons à faire l'expérience que tous les efforts que nous pouvons faire pour nous débarrasser de notre vie de péché ne servent pratiquement à rien. Frères et sœurs, Dieu a pourvu à tout. Par notre mort en Christ Jésus, nous ne sommes plus en Adam, mais nous sommes en Christ. Et cette entrée en Christ ne découle pas d'une volonté ou d'une stratégie de notre part. C'est important de comprendre ça. Cette entrée en Christ ne découle pas d'une volonté ou d'une stratégie de notre part. C'est Dieu lui-même qui l'a accomplie. Que signifie concrètement être en Christ? Cela signifie que désormais, nous pouvons vivre de la vie de Christ. Et donc, que le pouvoir du péché a été anéanti en nous. Écoutons une fois de plus ce que Paul dit. Je relis les trois versets, puis les suivants. Les trois versets que j'ai déjà lus, puis les suivants. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Écoutez bien ce qui suit. Nous savons que notre vieille nature, la nature en Adam, dont nous avons tous hérité. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, Christ, afin que ce corps de péché, mon corps de péché, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et Paul ajoute plus loin, ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. J'ai souvent entendu des chrétiens sincères regretter de commettre des actes qui déplaisent au Seigneur. Ils sont sincèrement tristes de cette situation qu'ils déplorent. Et ils veulent tout aussi sincèrement faire des efforts pour s'améliorer. Je vous en prie, prêtez attention à ce que je vais dire maintenant. Une vieille nature en Adam, même super bien améliorée,
restera toujours une vieille nature. Une vieille voiture toute déglinguée. Vous allez beau lui changer les freins. Ça m'a marché 15 jours. Après, il faut changer l'embrayage. Après, il faudra changer le carburateur. Vous allez dépenser des sommes folles, une énergie folle. Ça sera toujours une vieille voiture. Si nous essayons d'améliorer notre nature que nous avons héritée d'Adam, nous n'y pouvons rien, c'est comme ça. Ça sera toujours une vieille nature, même améliorée.
Frères et sœurs, comment ces mots résonnent-ils en vous? Est-ce que vous vous êtes approprié cette promesse? Ou bien continuez-vous à demander à Dieu en vous lamentant, « Oh Seigneur, mais délivre-moi de ma vieille nature !» À ceux qui adressent encore cette prière au Seigneur, mais Dieu dit aujourd'hui, « Mais attends, arrête de me demander ça, c'est fait !» Ne me le demande plus. C'est déjà fait, mais jusqu'à présent, tu ne l'as pas cru. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans ce passage que tu as certainement dû lire souvent. Alors, qu'est-ce qui te reste à faire? Mais approprie-toi cette promesse. Et tu verras les changements que je vais opérer en toi. S'approprier cette promesse, c'est rendre gloire à Dieu et lui dire « Merci Seigneur, je te loue de ce que ma vieille nature a été crucifiée avec Jésus ton Fils, afin que mon corps de péché soit réduit à l'impuissance et que je ne sois plus esclave du péché. » Frères et sœurs, comprenez-vous que cela change tout? De douter de cette promesse ou d'avoir la foi en cette promesse? Comme cela change tout de douter ou de croire que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous donne le salut? Douter, c'est accorder du crédit à Satan qui fera tout pour prouver de façon convaincante, par l'évidence de notre expérience journalière, que nous ne sommes pas morts du tout, mais bien vivants. Douter, c'est accorder plus d'importance aux mensonges de Satan qu'aux promesses de Dieu. Croire aux promesses de Dieu, c'est extirper de nous toute la puissance mortifère du mensonge et libérer en nous toute la puissance de la vie de Jésus. Douter, c'est rester esclave du mensonge. Croire, c'est vivre pleinement la vérité en Jésus-Christ. C'est vivre pleinement la vérité qu'est, que représente, qu'est Jésus-Christ. Pour terminer, je voudrais dire à tous ceux qui doutent qu'ils ne sont pas morts en Christ, tous ceux qui ne croient pas que leur vieille nature a déjà été crucifiée avec Christ. Je voudrais leur dire, Dieu vous appelle aujourd'hui, maintenant, à passer de l'incrédulité à la foi. Je voudrais vous aider, si vous êtes dans ce cas-là, à franchir le pas, en priant simplement avec vous. Et je dis à ceux qui le désirent de répéter après moi, à voix haute, à voix basse ou intérieurement, la prière que je vais adresser à Dieu. Seigneur, jusqu'à maintenant, je n'ai pas accordé beaucoup d'importance à cette promesse et j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais tu m'as fait comprendre aujourd'hui que c'est une promesse essentielle pour que la puissance du péché soit brisée en moi. Que ton esprit m'accorde maintenant la révélation que cette promesse est vraie. Alors, je proclame devant toi, Seigneur, que je sais et que je crois que ma vieille nature a été crucifié avec toi, afin que mon corps de péché soit réduit à l'impuissance et que je ne sois plus esclave du péché. Merci Seigneur de m'avoir associé à ta mort pour que je puisse vivre en toi. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse convaincre les cœurs. Et c'est ton plus cher désir, Seigneur, que chacun de tes enfants comprenne que la croix, ce n'est pas seulement ta croix, c'est la croix de chacun, afin justement de pouvoir passer d'une vieille nature en Adam à une toute nouvelle nature en toi, Jésus. Ô Esprit Saint, fais ton œuvre dans le cœur de ceux qui doutent encore. Parle-leur très fort, Seigneur. Éclaire cette promesse, éclaire l'Écriture, afin qu'ils fassent l'expérience d'une vie complètement renouvelée, où la puissance du péché est détruite. Parce que, comme l'a écrit l'apôtre Paul, je suis devenu une même plante avec toi, Seigneur Jésus. Amen.